Bonjour Constantin.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire France Catholique, la revue commentée. Alors pour commencer, notre revue commentée, retour sur la déclaration Dignitas Infinita publiée par le Dicaster pour la doctrine de la foi. Que retenir de ce document ?
Alors, Dignitas Infinita, c'est un document qui était en préparation depuis 5 ans, depuis 2019, et le moins qu'on puisse dire, c'était que le document était très attendu, d'autant qu'il était considéré comme étant un peu le document d'équilibre après la déclaration Fiducia Supplicans qui a ouvert la possibilité de la bénédiction d'union homosexuelle, un document qui avait fait grand bruit, qui a notamment provoqué la levée de bouclier de la part des épiscopats, et notamment africains. Et dans la foulée, eh bien, le Vatican avait rappelé que le Dicaster par doctrine de la foi, qui est un peu le dicastère gardien du dogme, on pourrait dire, préparait depuis quelques années un document qui allait s'exprimer, mettre à jour l'enseignement de l'Église sur plusieurs points, plusieurs sujets sociétaux, comme par exemple la théorie du genre et la GPA. Dignitas Infinita se présente comme en fait la réaffirmation de la position de l'Église dans 13 domaines dans lesquels la dignité humaine, selon Rome, est mise à mal. Alors, il y a beaucoup de sujets évoqués. Il y a la pauvreté au travail des migrants, il y a l'exploitation des personnes, les abus sexuels, la violence contre les femmes. Mais, comme on disait, Dignitas Infinita était surtout attendu sur des questions sociétales qui agitent les opinions publiques, comme par exemple l'avortement. Et là, le document rappelle que l'Église, ça, elle reprend les termes de Saint Jean-Paul II, considère l'avortement comme un crime. Le document était aussi attendu pour son avis donc sur la GPA, la gestation pour autrui. Là encore, Rome explique que la GPA nie aussi bien la dignité de l'enfant que celui de la mère porteuse. La théorie du genre aussi est dénoncée, cette idée selon laquelle eh bien, chaque personne, hein, je fais vraiment un résumé à très très grande ligne, chaque personne peut choisir le sexe, hein, homme ou femme, auquel il s'identifie, eh bien pour Rome, cela revient à céder à la tentation séculaire de l'être humain, se faisant Dieu et entrant en rivalité avec le vrai Dieu d'amour que nous révèle l'Évangile, une condamnation qui entraîne logiquement la condamnation des opérations de changement de sexe. Et puis, dernier sujet, l'euthanasie et le suicide assisté. Là encore, la position de l'Église n'a pas changé. Le document expliquant que la vie humaine, même dans sa condition douloureuse, est porteuse d'une dignité qui doit toujours être respectée, qui ne peut être perdue et dont le respect reste inconditionnel. Alors, malgré un ton du document, un ton général qui est un peu moins offensif que d'habitude, eh bien, la doctrine de la foi trace des limites pour les débats des années à venir.
Merci beaucoup, Constantin, pour ces grandes lignes d'information. Alors, France catholique met en valeur, dans cette nouvelle édition, le grand peintre flamand Jan van Eyck, ainsi que la dévotion moderna qui a inspiré son œuvre.
Oui, alors nous faisons ce grand dossier sur van Eyck parce qu'il y a un petit événement dans le monde de l'art français, qu'il a la restauration d'un très beau tableau qu'il a signé, qui est la Vierge du chancelier Rollin, qui était au Louvre, qui était dans un état qui était très abîmé, qui était restauré et qui a retrouvé vraiment tout son éclat. Et c'est l'occasion pour France Catholique de revenir sur cette grande figure de la peinture. Alors van Eyck, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peintre qui est né vers 1390 en Belgique actuelle, qui est mort à Bruges en 1441. Il a travaillé pour le duc de Bourgogne à partir de 1425. Alors, il était tout à la fois peintre et valet de chambre, et il effectuait en même temps des missions diplomatiques, hein. Donc à l'époque, c'était vraiment la belle époque où on pouvait être tout à la fois diplomate et artiste. Van Eyck est aussi l'un des premiers peintres à signer ses œuvres, et puis c'est surtout un des plus grands peintres de son temps, et puis même, quand on regarde l'histoire de la peinture occidentale, un des plus grands peintres de l'histoire de l'art de notre continent. Alors, le tableau de la Vierge du Chancelier Rollin est très intéressant parce que ce n'est pas juste une belle œuvre, hein. On y voit donc le chancelier Rollin, qui est la personne qui a commandé le tableau à van Eyck, qui se trouve sur la gauche du tableau, qui est assis qui est à genoux plutôt en train de prier, et en face de lui, on voit la Vierge Marie avec dans ses bras l'enfant Jésus en train de bénir le chancelier et puis en train de, voilà, de bénir le reste de l'humanité. Là où c'est intéressant, c'est que c'est une œuvre spirituelle qui est typique de son époque, puisqu'elle met en scène ce qu'on appelle la conversation sacrée et qui montre l'influence, ce que vous l'avez posé dans votre question, l'influence de ce qu'on nomme la Devotio Moderna, qui était à l'époque en expansion en Europe. Et Van Eyck, effectivement, s'inscrit dans ce mouvement, la Devotio Moderna, qui favorise l'intimité spirituelle avec le Christ. Nous avons demandé à l'abbé Hervé Benoît, dans une grande interview, de revenir pour les lecteurs de France catholique sur ce qu'est la Devotio Moderna. Alors, il rappelle qu'elle est née aux Pays-Bas au milieu du XIVe siècle. À l'époque, c'est vraiment une période extrêmement complexe en termes de soubresaut historique. Les Pays-Bas au milieu du XIVe siècle, il faut savoir qu'on est juste après un épisode de Grande Peste. Il y a l'épisode également de la guerre de Cent Ans, c'est aussi l'époque de la fin de la féodalité, le grand schisme dans l'Église catholique où il y a des papes, papes et antipapes, l'avènement de la bourgeoisie, l'avènement, plutôt l'apparition de la bourgeoisie, l'apparition du monde capitaliste. C'est aussi une époque où la foi était attiédie, où le clergé était corrompu. Bref, quand on entend cette longue énumération de soubresauts, la question qu'on peut se poser, c'est comment vivre alors une vie chrétienne authentique? Et bien justement, c'est la question que s'étaient posée de nombreux chrétiens à l'époque et qui a donné naissance à ce mouvement de la Devotio Moderna. Et on doit véritablement ce mouvement à Gerhard Grütz, qui vivait au XIVe siècle, et aussi au bienheureux Jean Rusbrück. Alors, la vie de Grütz est intéressante, hein. C'était un homme qui vivait une vie dissolue, mais qui a connu une conversion radical, qui a décidé de se retirer dans un monastère chartreux, de se former pendant 3 ans, et au bout de 3 ans, il décide d'en sortir pour devenir missionnaire, et rapidement, eh bien, se regroupe autour de lui des laïcs qui décident, sous son impulsion, de repartir à ce qu'ils estiment être la source de la vie chrétienne, c'est-à-dire l'oraison, la lectio divina, c'est-à-dire la lecture des Écritures, la contemplation de la vie du Christ, la fréquentation régulière des sacrements de l'Église, la formation de l'intelligence et de la foi, le silence également, la simplicité et l'attachement personnel au Christ. Alors au début, et ça encore, l'abbé Hervé Benoît le raconte de manière vraiment palpitante dans cette interview, eh bien, ce mouvement fait peur à l'Église. Alors, le mouvement décide un peu de s'organiser pour montrer que ce n'est pas un mouvement hérétique, mais fidèle à l'Église, fidèle au pape. Et ce mouvement va devenir le mouvement des frères de la vie commune. Et tous ces chrétiens vont vivre un peu comme les premières communautés chrétiennes, c'est-à-dire une organisation légère et adaptée à la vie dans le monde. Ils n'auront pas d'habits, ils n'auront pas de règles de vie, il n'y a pas de nécessité de vie commune, même si certains frères décident de s'installer ensemble. En revanche, ce qu'ils auront, c'est une spiritualité ancrée donc dans tout ce que nous avons évoqué, hein, l'oraison, l'élection divina, la formation de l'intelligence, mais également dans la tradition de l'Église, avec des grands auteurs auxquels ils se réfèrent, les pères de l'Église, Saint Bernard, Saint Augustin, et puis de nombreux autres moyens vont exister pour diffuser cette dévotion moderna, que nous explique encore l'abbé Hervé Benoît. Alors, il faut citer, quand on parle de dévotion moderna, un ouvrage qui a beaucoup compté dans cette diffusion du mouvement, c'est « L'imitation de Jésus-Christ », qui est un livre du bienheureux Thomas à Kempis, c'est le père Max de Longchamp qui signe un article pour France Catholique cette semaine pour raconter un peu l'histoire de ce livre écrit entre le XIVe et le XVe siècle et qui a été prisé par des générations entières de catholiques, et c'est même un des livres les plus imprimés au monde, et de nombreux saints ont nourri leur vie spirituelle sur ce livre. On peut bien sûr évoquer Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait une très grande dévotion, si on peut dire ça comme ça, pour l'imitation de Jésus-Christ. Alors, pour nous, le père Max de Longchamp essaie de comprendre, de nous expliquer à quoi on peut attribuer le succès de ce livre. Eh bien, selon lui, c'est parce que l'imitation de Jésus-Christ est une collection de sentences, donc qui sont rassemblées et mises en forme, mais sous une forme très intéressante, puisque ce sont des sentences ciselées qui, nous explique le père de Longchamp, parlent au cœur plutôt qu'à la cervelle, et qui permet un contact immédiat avec la personne du Christ. Voilà donc une imitation de Jésus-Christ qui est un des aspects de la dévotion moderne et qui est un des aspects qui est développé dans le France catholique de cette semaine. Mais il y a beaucoup d'autres aspects de ce mouvement de renouveau spirituel à découvrir dans le numéro. Et puis, comme à chaque fois, c'est toujours très intéressant de se replonger même dans des mouvements qui ont près de 5 siècles, pour essayer de tirer des conclusions et pour essayer de voir dans quelle manière les renouveaux de l'époque peuvent encore nous inspirer aujourd'hui.
Merci beaucoup, Constantin. Et maintenant, nous partons à Draguignan, où vous nous présentez une initiative visant à la consécration aux cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph.
Oui, l'initiative des sœurs du monastère de la Consolation à Draguignan, qui sont rattachées à la spiritualité de Saint Charles de Foucault. D'ailleurs, les sœurs de la Consolation sont reconnaissables avec leur habit blanc et puis surtout avec le Sacré-Cœur rouge vif qu'elles portent sur leur habit, de la même façon que Saint Charles de Foucault portait ce Sacré-Cœur rouge. Alors cette idée de consécration, il faut revenir un peu à l'origine de l'initiative. C'est une année mariale qui sera lancée à Draguignan le 8 septembre, le jour de la Nativité de Marie. Et le point d'orgue de cette année sera effectivement la consécration aux cœurs unis de Jésus, de Marie et de Joseph. Alors c'est un travail très intéressant parce que c'est un travail avec le curé de la paroisse, avec les missionnaires de la Miséricorde divine, avec les sœurs de la Consolation. Donc on voit un peu toutes les strates de la vie du diocèse, hein, l'aspect paroissial, l'aspect de la société des missionnaires, la Miséricorde divine, le monastère. Donc c'est vraiment tous les catholiques de Draguignan qui portent cette initiative. Alors il faut savoir qu'à Draguignan, il y a une très grande dévotion à la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame du Peuple, et chaque année, le 8 septembre, alors ça, c'est vraiment pas partout qu'on voit ça. Chaque année, le 8 septembre, le maire remet symboliquement les clés de la cité à la Mère de Dieu après une messe et après une procession. Et cette année, ça sera d'autant plus important que ce sera les 500 ans de la construction de l'église de Notre-Dame du Peuple. Alors, vous allez peut-être vous demander, mais comment se fait-il qu'un maire aille déposer les clés de la ville au pied de la Sainte Vierge? Eh bien, c'est tout simplement parce que cette église Notre-Dame du Peuple a été construite en action de grâce pour avoir protégé la population de Draguignan de la peste qui sévissait alors en Provence il y a de ça quelques siècles. Alors, par cette initiative, les sœurs de la Consolation espèrent répandre la dévotion au cœur de Marie, où se trouve, explique-t-elle dans cet article signé Véronique Jacquier, eh bien, le sens de la prière. Répandre aussi la dévotion au cœur de Jésus, bien sûr, qui a soif, nous disent-elles, soif des âmes et qui incite les fidèles à la confession, et puis bien sûr au cœur de Saint Joseph. Et puis surtout, elles espèrent que cette consécration aux trois cœurs unis permettra le retour à la foi de bien des habitants qui, disent-elles encore dans cet article, sont perdus sans Dieu dans un monde déstabilisant et angoissant.
Merci beaucoup, Constantin, d'informer aussi nos auditeurs de cette belle initiative qui ne manquera pas aussi de les toucher et de les mettre en mouvement, que ce soit physiquement ou dans la prière. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission, donc avec notre tour de France des sanctuaires mariaux. Aujourd'hui, nous sommes en Vendée, au sanctuaire de Notre-Dame du Petit-Luc.
Oui, alors d'habitude, les histoires que l'on raconte dès lors que l'on parle des sanctuaires mariaux sont toujours des histoires un peu joyeuses, parfois amusantes. Là, il faut dire que c'est plutôt tragique puisque Vendée oblige, eh bien, le sanctuaire de Notre-Dame du Petit-Luc est lié aux très sanglantes guerres de Vendée, puisque le sanctuaire est édifié sur les ruines de l'église Notre-Dame du Petit-Luc, qui a été détruite par ce qu'on appelait les colonnes infernales, les autoproclamées colonnes infernales, qui étaient les colonnes envoyées par le gouvernement à Paris, le gouvernement révolutionnaire, pour mater et pour réprimer dans le sang la révolte des Vendéens. Et en fait, sur ce lieu, donc à Notre-Dame-du-Petit-Luc, il y a eu un massacre absolument terrible de 564 Vendéens, dont 110 enfants de moins de 7 ans, qui ont tous été exécutés. Alors, il y a une figure qui ressort de ce massacre, hein, c'est l'abbé Voineau. On raconte un peu sa vie dans cette dernière page de France catholique, qui était le vieux curé du coin qui, apprenant que les colonnes infernales venaient, eh bien, décide d'aller voir les soldats pour essayer d'arrêter le massacre, lui-même étant un prêtre réfractaire, c'est-à-dire qu'il a refusé pour aller vite de prêter allégeance à la Révolution. Eh bien, il sait qu'il risque sa vie, mais il n'hésite pas parce qu'il y a une possibilité, peut-être, pense-t-il, de sauver ses paroissiens. Et en réponse, les hommes du général Étienne Cordelier, eh bien, lui coupent les doigts et la langue avant de lui arracher le cœur. Et puis ensuite, il se dirige donc vers cette église du Notre-Dame du Petit-Luc pour tuer sans exception les hommes, les femmes et les enfants. Alors, j'allais dire, l'espoir qu'il y a, eh bien, c'est le procès en béatification de toutes ces jeunes victimes qui a été ouvert et qui peut-être verra un jour ces victimes vendéennes du massacre du Petit-Luc élevées à la gloire des autels.
C'est déjà la fin de notre émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr. Et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
Merci Claire et à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, c'était France Catholique, la revue commentée. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.